Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, je vous propose que nous continuions notre réflexion sur ce beau livre du Cantique des Cantiques. La fois précédente, nous avions évoqué le langage sublime de l'amour, et dans cette autre partie, nous allons parler du témoignage de l'amour. Alors, je ne sais pas si vous en souvenez, mais nous nous étions arrêtés tout simplement au début du chapitre 6. Alors, Cantique des Cantiques, chapitre 6, et puis nous allons progresser, et nous progresserons quand même rapidement vers la conclusion, qui nous rapproche en effet bien de tout simplement ce que nous rapporte hein, en fin de livre, et bien ce que peut représenter l'amour, hein, et ce que nous avions déjà défini ensemble, hein, cette belle histoire de cet époux et de son épouse, hein, de Sunamite et du roi Salomon, du berger et de la bergère, et puis en correspondance avec le Christ et son Église, son épouse qui est l'Église. Voilà. Alors donc, si nous reprenons le sujet d'avant, eh bien nous avions conclu sur ce verset du livre des Psaumes où il était question qu'il est beau de voir des frères demeurer ensemble, et c'est là où coule la bénédiction. Donc d'où vient la bénédiction pour l'éternité. Alors je vous propose que nous lisions à partir du chapitre 6, le verset 2. C'est Sunamite qui s'exprime ainsi, 6, verset 2, « Mon bien-aimé est descendu dans son jardin, au parterre d'aromates, pour faire paître son troupeau dans les jardins, et pour cueillir les lys. Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi, il fait paître son troupeau parmi les lys. » Ce que l'époux Salomon répond, « Tu es belle, mon amie, comme Tirsa, agréable comme Jérusalem, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de Galade. Tes dents sont comme un troupeau de brebis qui remonte de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Tes joues sont comme une moitié de grenade derrière ton voile. Il y a 60 reines, 80 concubines et des jeunes filles sans nombre. Une seule est ma colombe, ma parfaite. Elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui donna le jour. Les jeunes filles la voient et la disent heureuse, les reines et les concubines aussi, et ils la louent. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière? Je suis descendu au jardin des noyers, pour voir la verdure de la vallée, pour voir si la vigne pousse, si les grenadiers fleurissent. Je ne sais, mais mon désir m'a rendu semblable au char de mon noble peuple. » Et on termine par le verset premier du chapitre 7. « Reviens, reviens, Sunamite, reviens, reviens, afin que nous te regardions. » Voilà pour la situation par la lecture. L'Église que Sunamite appelle poétiquement son jardin. Vous avez remarqué, mon bien-aimé est descendu dans son jardin. Alors, ce jardin est composé de tous ceux qui l'aiment. Et l'Église, c'est ça, hein. On est là parce qu'on aime Jésus. Ou tout simplement, ou peut-être plus directement, c'est parce que Jésus nous a aimés et en retour nous l'aimons. Alors, cette Église, donc, porte la marque de l'amour réciproque entre Christ et puis ce que nous sommes, mais également son jardin, c'est aussi ceux qui servent à sa gloire. C'est-à-dire d'une façon ou d'une autre, hein, on peut décliner le service sous différentes formes, et également le jardin est la caractéristique de ceux qui se sanctifient pour Christ, comme Sunamite eh bien, l'exprime par rapport à son bien-aimé. L'image que nous avons à travers cette parole du parterre d'aromates et les lys qui les vient y cueillir. Ça veut dire tout simplement, et ça représente bien des fruits, représente bien les fruits et les fleurs de la sanctification des croyants. Et la sanctification, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le témoignage de Christ en nous, de sa personne en nous, de ses sentiments en nous qui produisent, c'est vrai, les belles fleurs de la vie chrétienne, mais le fruit aussi, que l'on appelle communément la vie, le fruit du Saint-Esprit. Et la sanctification des chrétiens, eh bien, se développe ensemble et en Église. Et je voudrais quand même le spécifier d'une manière tout à fait particulière, c'est que pour grandir, nous avons besoin de l'Église. Nous avons besoin de la communion des uns et des autres. Nous avons besoin du partage des uns et des autres. Alors c'est vrai que je veux bien croire qu'il y a des croyants qui sont croyants ou chrétiens tout seuls, un peu comme des Robinson Crusoe, mais je crois que c'est véritablement eh bien, une restriction de la vision de Dieu que d'être croyant tout seul, c'est-à-dire de faire cavalier seul. Et c'est vrai que la vie en Église n'est pas simple, parce qu'on y rencontre des personnages, on y rencontre des personnes, et on y rencontre une multitude de personnalités. Et c'est précisément dans cette rencontre, dans voire même cette confrontation, qu'on apprend à aimer. On a tous des origines différentes, on a tous peut-être une éducation différente, et pourtant, bien que l'Église soit décriée, qu'elle a souvent été décriée, elle le sera certainement encore, c'est là où véritablement nous apprenons à nous sanctifier. Et nous apprenons à être comme Jésus est. Et vous savez, ça n'a pas été simple aussi pour Jésus. Il avait quand même une troupe de disciples, ne serait-ce qu'à commencer par les 12, qui n'étaient pas simples, hein, qui n'étaient pas faciles. Et je crois que Jésus a su les amener au fur et à mesure de leur marche, eh bien, à être ce qu'ils sont devenus. Ses disciples sont devenus des apôtres. Je pense à Pierre, je pense à Jean, à Jacques et les uns et les autres. Et je crois que nous avons besoin de bien comprendre que ce jardin dont il est parlé, eh bien, c'est l'Église là où les chrétiens servent le Seigneur, là où nous avons la possibilité d'être, de nous sanctifier ou de laisser Dieu nous sanctifier dans la communauté des croyants. Et c'est là où nous pouvons vraiment exprimer notre amour. Donc, le fruit premier du Saint-Esprit, eh bien, c'est précisément l'amour, qui est le thème de notre livre, et qui est plus, et qui plus est mieux qu'aucune autre, ou qu'aucun autre, pour la force du témoignage. Vous savez, le témoignage, c'est ça, hein. C'est pour ça qu'on a titré cet épisode, cette fois-ci, le témoignage de l'amour. Et on peut dire beaucoup de choses, on peut multiplier les paroles, on peut faire beaucoup d'actions qui peuvent impressionner, mais une chose qui ne remplacera, la chose qui ne sera jamais remplacée, c'est l'amour que nous pouvons manifester les uns avec les uns et les autres, et le dire aussi, et le montrer à l'extérieur. Et d'ailleurs, Jésus ne s'y est pas trompé, puisqu'il le dira lui-même, c'est ainsi que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres, et ça ne passera pas inaperçu. Vous savez, il n'y a rien de plus désolant, de plus attristant, de plus délétère et navrant que quand il y a des divisions dans une église. Le monde ne veut pas entendre parler de l'Église, parce que quand ils voient déjà toutes les divisions dans les différentes dénominations, ils se disent « à quoi bon ?» Alors c'est vrai que, je le dis et je le précise, que l'Église, elle est faite pour nous aimer dans la vérité. Alors c'est vrai que tout le monde ne partage pas la vérité de Christ, même dans les églises qui confessent le christianisme. Mais néanmoins, le premier témoignage chrétien que nous avons à démontrer, eh bien, c'est l'amour. Et Jésus le dira, il le dira comme quelque chose d'une grande importance. Si vous vous aimez les uns les autres, c'est ainsi que tous ceux qui sont autour de vous, tous ceux qui ne croient pas, tous ceux qui ne sont pas encore des croyants, eh bien, ils connaîtront à ce moment-là que vous êtes vraiment, eh bien, mes disciples et que vous êtes mes serviteurs pour donner au monde ce qui lui manque le plus, c'est-à-dire l'amour. Et ce n'est pas tout parce que c'est un signe de reconnaissance du lieu où on se trouve. Et si on entend dire que dans l'Église évangélique, ici ou ailleurs, où l'Évangile est annoncé, que les gens s'aiment, eh bien ça sera vraiment une incitation et une curiosité pour ceux qui sont à l'extérieur de venir voir. On l'entend quelquefois, et souvent chez les nouveaux convertis, ceux qui nous rejoignent, ils nous disent « mais vraiment je me sens bien ». Ça, c'est la maison de Dieu et je me sens bien au milieu de vous. L'Église se distingue par l'enseignement de la parole de Dieu aussi. Parce qu'une Église où il n'y a plus la prédication, c'est une Église qui a véritablement passer sa vocation. Et c'est là où on doit pouvoir entendre la parole de Dieu et qui est dispensée. Et il est dit dans notre texte, pour faire paître son troupeau parmi les lys. C'est toujours le chapitre 6, verset 2 que nous avons devant les yeux. Comme mon bien-aimé, donc, est descendu dans son jardin, j'ai expliqué, au parterre des aromates, pour faire paître son troupeau dans les jardins et pour y cueillir les lys. Alors, il y a un sens à tout cela, naturellement. Là où l'on entend pour la première fois le message de la grâce, je n'ai pas dit le message de la loi, mais le message de la grâce, là on y demeure pour se nourrir et croître spirituellement, parce que c'est vraiment par la grâce que nous pouvons nous développer. La loi fait peur, la loi est restrictive, la loi intimide, mais la grâce ouvre toutes les portes. On en a parlé encore récemment, et nous sommes en train de marquer et de mettre l'accent justement sur la grâce divine, la grâce infinie de Dieu, et nous voyons que dans l'Église vivante, où se trouve une prédication fidèle sur la grâce, eh bien, la sanctification est réelle. C'est assez étonnant, c'est que quelquefois nous pourrions penser que là où il y a une prédication légaliste, il y a la sanctification. Moi, je n'y crois pas. C'est l'homme qui se sanctifie par ses efforts. Ouais, c'est surprenant, mais je ne suis pas en train de démonter le principe de la loi. Mais je crois qu'il y a quand même plus grand que la loi. C'est de laisser Dieu, par-delà, finalement, eh bien, toute considération, prendre la place totalement et complètement dans notre être entier pour agir par le Saint-Esprit. Et c'est pas quand on se sent fort, c'est pas quand on se sent maîtriser les commandements de Dieu et de dire ceci et cela et en plus juger les autres qui n'y arrivent pas. C'est véritablement quand on se sent faible, quand on se sent si petit qu'à ce moment-là, eh bien, on peut se répandre dans la grâce de Dieu en disant Seigneur, si tu n'es là, si tu n'es pas là avec moi, eh bien, je n'y arriverai pas. Ça, c'est la grâce, c'est par grâce. Et ça, c'est important. Et je veux dire que la sanctification, à ce moment-là, elle est réelle. C'est pas dans l'effort humain, c'est dans le sacrifice que Jésus a accompli complètement et totalement, dans lequel je crois pleinement pour mon salut, qu'à ce moment-là, la sanctification, eh bien, sera réalisée. Et ça, c'est important. Parce que là est Jésus, finalement. Là est réellement Jésus. C'est ce qu'il appelle son jardin. Et c'est son Église. Par ailleurs, n'est-ce pas parce que l'Église fidèle se sanctifie et proclame la parole de Dieu, où il est question d'un jardin arrosé dans le désert du monde, nous représentons quelque chose dans ce monde où il n'y a que de l'infécondité et de la stérilité sur le plan moral et sur le plan spirituel, que cette Église est souvent jalousée, qu'elle est critiquée, qu'elle est méprisée et qu'elle est rejetée. Eh oui. L'Église a toujours été persécutée à travers toute son histoire, et pour une bonne raison, parce que cette persécution, elle dérange, elle embarrasse, ce témoignage de l'amour de l'Église, dérange et embarrasse, et c'est pour ça qu'elle est combattue. Et je crois qu'il faut être tout à fait conscient de cet engagement qui est le nôtre, et parfois ça va beaucoup plus loin, l'Église de Jésus-Christ vivante, qui sert le Seigneur, qui démontre le témoignage de l'amour, eh bien, c'est une Église qui est quelquefois jusqu'à être haïe par les hommes. On l'a vu la semaine dernière, quand Jésus nous dit dans la prière sacerdotale, eh bien, vous n'êtes pas du monde, et c'est pour ça que le monde vous hait, parce que vous n'êtes pas à lui. Alors, à ce moment-là, eh bien, on comprend tout ce qui peut finalement peser sur l'Église, dans les combats, dans les luttes et toutes sortes de choses. Tous les chrétiens savent qui il est, et où est son jardin? Et parce que nous en témoignons avec ferveur, peu, hélas, acceptent le message. C'est alors que l'Église professante a besoin d'être rassurée et a besoin d'être justifiée. Et le témoignage que nous recevons de l'Esprit, et nous allons le voir d'ici quelques instants à travers un verset, c'est que le Seigneur, quoi qu'il en soit, nous a fait la promesse que nul ne nous révirait de sa main, pour justement, nous conduire jusqu'au bout. C'est l'époux en personne qui parle d'elle. Nous l'avons vu au verset 4. Tu es belle, mon amie, comme Tirsa et comme Jérusalem, etc. Donc c'est maintenant Salomon qui reprend la parole et qui parle d'elle, de son église, de son jardin, comme il la voit, telle qu'elle est à ses yeux. Et que le monde entier sache qu'il l'a aimée, cette Église. Dans l'Apocalypse, au chapitre 3 et au verset 9, il nous est dit ceci, « Voici, je te donne ceux qui se disent et qui ne sont pas, c'est-à-dire des faux chrétiens, ou qui ont un faux semblant, qui ne vivent que par procuration et hypocrisie, tout simplement. Alors, je te donne ceux qui se disent et qui ne sont pas, et qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Et pourquoi ? Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. » Et je crois que l'Église, jusqu'au bout, jusqu'au terme de sa mission, bien puisse garder cette parole de Dieu, cette parole de persévérance. Et savez-vous que dans un autre monde, dans un autre temps, les hommes qui ont combattu l'Église viendront s'incliner devant elle, en voyant que nous avons été au bénéfice de l'amour de Dieu, que nous sommes des rachetés. Alors je ne sais pas de quelle manière ça pourra se réaliser, se passer, mais la parole est claire. Hein, je te donne tous ceux, et voici je les ferai venir se prosterner à tes pieds. Imaginez-vous le retournement de situation. Il n'y aura plus de faux semblants, il n'y aura plus rien de ce... La persévérance en moi, il nous est dit, viendra le temps où l'humiliation de l'Église disparaîtra, elle règnera souverainement sur les nations. Imaginez-vous, hein. On revient un petit peu à notre étude antérieure de l'Apocalypse, mais il est bien question de régner souverainement sur les nations avec son roi. Je pense que tout cela doit être envisagé au moment du millénium, me semble-t-il. Et nous avions là, eh bien, étudié cette question. Son roi qui est Christ. C'est pourquoi Jésus dira à ses disciples, bien avant que toute l'Église prenne son essor et son envergure, « Ne crains point, petit troupeau, parce qu'il a plu à votre Père de vous donner le royaume. » Donc c'est ça, en quelque sorte, eh bien, qui transparaît à travers ces premiers versets du chapitre 6. « Si nous rendons témoignage de Christ, si nous rendons témoignage de lui, voilà ce que lui dit de son Église et de son épouse. » Le verset 4 nous dit « Tu es belle, mon ami, tu es agréable comme Jérusalem. » Un peu plus loin, au verset 8, si nous poursuivons, il nous est dit qu'il y a 60 reines, 90 concubines et des jeunes filles sans nombre. Et puis le verset 9, « Une seule est ma colombe, ma parfaite, elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui donna le jour, les jeunes filles la voient et la disent heureuse, les reines et les concubines aussi, et elles la louent. » Et au verset 10, « Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière ?» Alors que le verset 6, le chapitre 6 s'achève sur le déploiement de la beauté morale de Christ, reflétée dans l'Église fidèle, le chapitre 7 s'ouvre sur la demande pressante des filles de Jérusalem qui cherchent à découvrir ce qu'il peut y avoir de particulier chez Sunamite. Vous vous souvenez, la première fois, c'était Sunamite qui parlait, c'est ce qu'on a appelé le langage sublime de l'amour. La fiancée parlait de son fiancé avec des termes tout à fait particuliers, c'était le rendez-vous de la fois précédente. Et maintenant, ce sont les filles de Jérusalem qui veulent découvrir ce qui fait l'objet de l'amour de Sunamite pour son bien-aimé. Ou si vous voulez qu'on le traduise d'une manière évangélique, quelle est la raison qui fait que l'Église aime Jésus ? Qu'elle aime son Sauveur ? Qu'elle aime celui qui l'a racheté et qui l'a sauvé ? Alors, qu'a-t-elle de plus que le monde ne possède ? Et nous en arrivons véritablement au premier verset sur lequel je vais parler un petit peu plus longuement. Il est dit « Mais reviens, reviens, Sulamite, reviens, afin que nous te regardions. » Qu'avez-vous à regarder la Sunamite comme une danse de deux cœurs ? C'est intéressant de nous arrêter sur cela. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la différence entre nous et le monde ? Qu'est-ce qui fait la différence entre un chrétien et un non-chrétien ? Ou un chrétien de nom ? Qu'est-ce qui fait la différence ? Nous sommes physiquement comme le reste des hommes. Nous avons une tête, des jambes, et puis voilà, deux bras, etc. Il n'y a pas de... C'est pas marqué sur notre visage que nous sommes chrétiens. Alors il ne faut pas chercher la différence à l'extérieur. Je sais que dans bien des communautés religieuses, on met en avant l'extérieur avec un habit particulier, avec un enjevolissement, nous pourrions dire, ou une ornementation tout à fait à caractère religieux. Chez nous, il n'y a rien de tout ça, même dans nos églises, c'est tout à fait de plus dépouillé, nous pourrions dire. Donc, si ce n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Et n'ayons pas peur de montrer l'intérieur de nos vies, c'est-à-dire ce que nous sommes réellement. Ce que Christ est en train de faire, ce qu'il a déjà fait, mais ce qu'il poursuit à faire et ce qu'il arrivera à faire pour l'amener à la perfection, naturellement. Alors, on a justement cela. Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui peut attirer le monde, comme les filles de Jérusalem, pour nous dire « Mais qu'est-ce que vous avez de plus que les autres ?» Souvent, on nous l'a dit, Et vous, les chrétiens de l'Évangile ou les chrétiens évangéliques, mais qu'est-ce que vous avez de plus que les autres? Nous, on a la messe, on a ceci, on a cela, on a des grandes cérémonies, on a des fêtes, on a toutes sortes de choses. Qu'est-ce qui fait la différence? La question, elle est là, elle est tout à fait pertinente. Lorsque nous essayons de copier le monde, et malheureusement, nous nous apercevons que dans nos milieux, quelquefois, il y a une déclinaison dans ce sens. C'est dommage. Parce que comme si nous avions reçu insuffisamment, comme si le Seigneur nous avait oublié dans la distribution, savons-nous que le Seigneur nous a dotés de son esprit, qu'il nous a baptisés de son esprit, qu'il nous a remplis de son esprit, qu'il nous a donné sa parole? Tout le monde ne peut pas le dire, Peut-être dans d'autres communautés d'obédience chrétienne. Et qu'est-ce que nous avons, nous, à commencer, après avoir commencé par l'esprit, de finir par la chair? C'est malheureux, Mais c'est ce que nous pouvons déplorer, c'est ce que nous pouvons constater, qu'il y a comme un étouffement, comme s'il y avait une décélération, comme s'il y avait quelque chose qui, n'allait plus à la même vitesse et au même rite que la vie de l'esprit. Et on s'aperçoit qu'une déperdition, tout simplement, c'est le mot que je cherchais, de vouloir copier ce qui se fait dans le monde, comme si, nous étions de ce monde, comme si ce que le monde fait en domaine de spirituel est quelque chose qui est acceptable par Dieu. Attention aux contrefaçons. À vouloir nous identifier à ce monde, faire dire comme lui fait et dit. C'est-à-dire de faire comme lui. Alors, quand on considère les choses, on s'aperçoit... Il y a une question peut-être à se poser, mais qui est notre modèle? Nous, Église de Jésus-Christ, alors que nous avons véritablement Jésus. Nous le croyons, comme nous le chantons dans ce cantique, « Il est en moi et je suis en lui ». Ça veut tout dire. Ça résume finalement notre confession de foi. Alors, il ne faut pas s'y tromper, le vocabulaire des incrédules parle les mêmes mots que les chrétiens. Je tiens à le dire. Oui. Et je vais vous expliquer. Vous entendez des gens qui parlent de prière, vous entendez des gens qui parlent de Jésus, vous entendez des gens qui parlent de la Bible, qui auront le même mot évangile que nous prononçons, et qui auront toute une phrasiologie, et voilà, on le comprend ça, on le sait. Et pourtant, croient-ils réellement en Jésus-Christ? Ont-ils une vie d'engagement avec Jésus-Christ? Sont-ils passés par la repentance essentielle? Ont-ils fait une rencontre, une reconversion? Est-ce qu'ils sont nés de nouveau? Sont-ils baptisés du Saint-Esprit? Ce sont des questions que nous pouvons nous poser, et nous savons que nous pouvons déjà répondre pour certaines personnes, sans juger, mais que nous pouvons dire que ces choses essentielles qui caractérisent un véritable enfant de Dieu n'existent pas. Alors on peut peut-être dire, ou ils nous diront, mais nous avons notre religion, nous avons fait ceci et cela, nous avons passé par tel ou tel sacrement, ça revient au même, Jésus nous a jamais enseigné cela. Et la question de savoir, mais qui est notre modèle? Et nous devons présenter notre modèle. Nous ne devons pas parler de nous, mais nous voulons faire parler de Jésus. Et il ne faut pas s'y tromper, parce que dans le langage, ça ne veut pas toujours dire la même chose, mais ce que sont les mots, ce que sont des formes et des apparences, il faut peut-être aller au-delà. Tsunamite a pourtant quelque chose de plus. Celle dont nous parlons dans ce texte, elle a quelque chose de plus. Comme l'Église de Jésus-Christ a quelque chose de plus, et le plus le voici. Elle est ce qu'elle dit, elle vit ce qu'elle croit. Et ça, faut que nous nous en souvenions, Autrement, il y a quelque chose. Et elle suit qui elle aime. Et si notre préférence de sentiment ou d'amour, c'est quelque chose ou quelqu'un autre que Jésus, je peux vous dire que ce n'est pas l'Église de Jésus-Christ. et nous disons ce que nous croyons. Et nous vivons ce que nous croyons. L'Église authentique est tout simplement, excusez-moi, convertie, et son amour pour Christ est sa seule force. Il nous est dit terrible comme des troupes sous leur bannière. Et je crois qu'une chose qui doit caractériser l'Église, c'est qu'elle n'a pas peur. Elle n'a rien à craindre. Elle est comme une armée. Elle est comme un vaillant héros. Je pense à Gédéon en vous disant cela. Malgré toute sa faiblesse et malgré toute sa petitesse, c'est bien ça l'Église. Et c'est ce que nous avons lu à travers ces quelques mots terribles comme des troupes sous leur bannière. Parce que, souvenons-nous de ce que nous avions étudié dans le chapitre 2, verset 4, il était dit « Et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. » C'est pas un étendard de ensanglanté, c'est pas un étendard guerrier ou de victoire téméraire, mais c'est l'amour. Et c'est ça ce qui doit nous caractériser, tout simplement. L'amour rend fidèle. Et quand on aime à ce point, eh bien on est fidèle. Et quand on n'est pas fidèle, c'est qu'il y a un manque dans l'amour. Tout simplement. L'amour rend obéissant aussi. L'amour scelle la confiance. Ce qui fait qu'il n'y a aucun doute. Il n'y a pas d'appréhension, d'aucune façon, d'aucune manière. Qu'avez-vous à regarder Tsunamite comme une danse des deux cœurs, avons-nous lu tout à l'heure? La traduction exacte, et ça va vous rappeler un épisode de la Bible, c'est tout simplement deux cœurs, deux bandes, deux camps. En hébreu, ça veut dire Ma'anaïm. Dans le livre de la Genèse, nous avons cette histoire qui nous est racontée, si vous vous en souvenez, dans le chapitre 32 et versets 1 et 2, qui fait allusion à Jacob, dans une circonstance où Jacob fuyait Laban, son beau-père, avec ses femmes, ses enfants et ses troupeaux. Et sur la route de Canaan, les anges de Dieu ont rencontré Jacob. Et Jacob s'est écrié, c'est l'armée de Dieu. C'est une vieille histoire, hein. Ce sera peut-être à relire si vous voulez faire une lecture demain matin, vous verrez. C'est l'armée de Dieu, d'où le nom de Ma'anaïm, deux troupes. Et je vais vous expliquer, c'est-à-dire deux troupes, deux bandes. À cet endroit, l'armée du ciel est venue rejoindre l'armée de la terre. Et vous savez ce qui fait la caractéristique de l'Église? C'est Ma'anaïm, c'est-à-dire deux troupes. Il y a les troupes d'en bas auxquelles nous pouvons nous identifier, nous qui sommes des hommes sur la terre, mais nous sommes appelés des soldats, nous sommes appelés des combattants, nous sommes appelés à mener une bataille qui n'est pas une bataille charnelle, mais une bataille spirituelle. Et c'est tous les jours, et Paul l'appellera le bon combat de la foi. Mais nous ne sommes pas seuls. Autant les armées font des coalitions pour faire du nombre et de la force, les armées de la terre, autant les armées que représente l'Église de Jésus-Christ, c'est que nous avons aussi une armée dans le ciel. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais aussi contre chose. Mais par contre, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et comme Jésus le dira justement au moment de sa crucifixion, il dira ceci, mais n'ai-je pas la possibilité de demander à mon Père qui est dans les cieux de m'envoyer 12 légions d'anges? Et c'est ça ce qui fait la force de l'Église. C'est que notre combat n'est pas un combat d'en bas, c'est un combat d'en bas, mais avec toute l'aide qu'il y a dans le ciel. C'est ça, la victoire de l'Église. Alors, c'est cette rencontre du ciel et de la terre. Et qu'est-ce que nous pourrions être? Vous vous souvenez de l'histoire d'Élisée à Dothan, quand il a eu la vision, enfin quand son serviteur a eu la vision de que toute l'armée des Syriens envahissait la ville, il a été pris de panique, le serviteur, et il est venu voir Élisée en disant « Mais nous allons mourir, ils sont en train de nous assiéger, nous allons tous disparaître, nous allons passer au fil de l'épée. » Et à ce moment-là, il a prié pour son serviteur, et Dieu lui a ouvert les yeux. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu une armée spirituelle. Et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est ce qui fait la force de l'Église. Il est dit, tout simplement, nous l'avons lu tout à l'heure, dans notre texte, quand il est question justement de ces deux cœurs, qu'avez-vous à regarder sur la main? Comme une danse de deux cœurs, de deux bandes, de deux armées, de deux troupes. Ce qui nous montre c'est que la danse est l'expression de la joie. Et c'est bien la caractéristique aussi de cette Église. La joie, le témoignage rendu par l'Église à la face du monde, qui nous regarde vivre et doit être celui de la joie, de la vie, de l'harmonie, de l'amour, de la rencontre, de l'unité du ciel et de la terre, comme justement, eh bien, ce mot veut le dire en hébreu, Ma'anaïm. Ouais, il y a la relation entre le ciel et la terre. Et vous savez que rien ne résiste aux armées du ciel, aux armées divines, parce que c'est la puissance spirituelle. Les hommes ne pourront rien faire. Pour nous dire que nos vies, notre conduite, nos paroles doivent proclamer notre haute origine, et nous n'avons pas honte de l'Évangile, et nous n'avons pas honte d'appartenir à notre Dieu. Nous n'avons pas honte de Jésus-Christ. Donc, une haute origine. Manifester ce que nous sommes, et nous sommes, et Paul le dira, nous sommes des citoyens du ciel. Nous sommes déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Assis dans le ciel, tout en restant sur la terre, en reflétant les qualités d'homme, en communion avec Dieu. C'est ça ce qui fait notre force, et ce qui fait le témoignage qui ne doit jamais être discordant avec la sagesse et la sainteté du ciel. Et là, il y a encore un grand parcours à faire pour l'Église. Et c'est le Seigneur qui va le faire. Si nous voulons l'accomplir nous-mêmes, nous n'y arriverons pas, ou alors nous allons prendre les méthodes du monde de nous renfermer dans un endroit clos, et puis passer notre vie là dans le jeûne, la prière, etc. Mais c'est une illusion, parce que tout cela, ça ne fait que satisfaire finalement la chair, comme nous dit Colossiens chapitre 3, on en a parlé dernièrement aussi de tout cela. Sous un rapport de sagesse et d'humilité, mais cela ne fait que finalement, eh bien, ça ne rentre pas dans la considération des choses acceptes, naturellement. Les filles de Jérusalem, pour revenir à elles, voulaient voir à tout prix la beauté de Sunamite, parce qu'elle portait la beauté de son bien-aimé. Et je crois que le monde doit pouvoir voir la beauté de Christ à travers la beauté de l'Église. Alors c'est sûr que ça peut faire crier certains. Et c'est vrai que quand l'Église est malade, quand l'Église est divisée, quand l'Église est blessée, quand elle est persécutée, mais c'est pas quand elle est persécutée qu'elle est la moins joyeuse. C'est quand elle n'a plus le souffle de l'esprit, quand elle a perdu finalement la vision. Alors à ce moment-là, oui, c'est grave. Mais nous apercevons que, comme les mots sont dits, reviens, Sunamite, reviens afin que nous te regardions. Quand les hommes de ce monde viendront et frapperont à la porte des églises en disant nous voulons voir la beauté que vous pouvez représenter de Christ et la beauté de sa parole que nous voulons entendre au milieu de vous, alors merci Seigneur, hein. Et je crois que nous avons à prier pour cela. Mais moi je suis encouragé, et je voudrais le dire parce que quelquefois nous avons des témoignages de gens qui viennent dans... après une longue errance, après un long vagabondage dans le monde. Ils sont complètement désabusés, ils sont dégoûtés d'eux-mêmes, ils sont dégoûtés de tout. Et quand ils viennent et qu'ils sont touchés par le message de l'Évangile, je peux vous dire que là, ils disent des choses. Ils confessent des choses. Ils sont fervents pour confesser l'amour de Dieu. Et surtout, ne décevons pas, nous, par notre comportement, dans l'accueil que nous pouvons réserver à tous ceux qui franchissent la porte, dans les messages, et ça va particulièrement dans la responsabilité des pasteurs, de donner un message qui soit conforme avec eux, la parole de Dieu, et un message inspiré par le Saint-Esprit, avec une parole de connaissance, avec l'accompagnement des dons spirituels. Et là encore, nous avons besoin de prier, parce que ça fait partie de la panoplie, et ça fait partie de l'équipement que nous avons à donner autour de nous. Et là, nous pourrons voir peut-être les filles de Jérusalem, ou les filles de Saint-Nazaire, ou je ne sais qui, ou je ne sais quoi, en tous les cas, venir et dire, mais c'est ici que j'ai trouvé mon bonheur parce que j'ai trouvé la vérité en Jésus-Christ. C'est important, hein? C'est important. Alors, je voudrais simplement dire que Sunamite était ce que lui, son bien-aimé, était. L'Église est et l'Église sera ce que Christ est aux yeux de chacun d'entre nous. Quel témoignage que celui des disciples! Dans Actes chapitre 4, verset 13, il nous est dit « Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, vous vous souvenez, dans cette, ils ont été emprisonnés, et les disciples. Les hommes, les Juifs, furent étonnés et les reconnurent pour avoir été avec Jésus. » Eh bien, qu'on nous reconnaisse pour être avec Jésus, qu'on nous reconnaisse pour avoir été avec Jésus, qu'on nous reconnaisse parce que les paroles qui sont dans notre bouche sont les paroles mêmes de Jésus, qu'on nous reconnaisse pour cela. Qu'on nous reconnaisse pas comme des religieux ou des mystiques ou des dévots. qu'on ne nous reconnaisse pas comme cela, mais qu'on nous reconnaisse véritablement avec le caractère que Jésus a mis à l'intérieur de nous-mêmes et que nous devons véritablement y développer. La gloire de Jésus était sur eux, sur ces hommes. Je termine simplement ce soir, effet et reflet du témoignage. Vous savez que nous chantons ce cantique qui dit ceci, « Te ressembler Jésus, c'est mon bonheur suprême. » Ouais. Et être tout comme toi, ça c'est notre aspiration. J'aimerais terminer par 3 exemples concrets. Bref. Autrefois, Moïse, ce grand homme que nous connaissons, prophète et conducteur du peuple d'Israël, s'était tenu dans la présence de Dieu, sur la montagne. Son visage, nous dit la Bible, brillait de la gloire de Dieu quand il est redescendu. Quand les Israélites le virent descendre, ils reconnurent tout de suite que le ciel rayonnait sur la terre. Parce que quand il était monté en haut chercher les tables de la loi sur le mont Sinaï, il est redescendu après avoir passé 40 jours dans la présence de Dieu. Et quand il est redescendu avec une part de ce rayonnement et de cette gloire. Et ceux qui l'ont vu redescendre, ils ont vu qu'il s'était passé quelque chose. Vous savez, quand nous montons vers le Seigneur, je pense à la prière, je pense à l'illumination que nous donne, eh bien, la compréhension de sa parole. Nous redescendons toujours avec quelque chose. C'est vrai? Je voudrais, et je souhaite en tous les cas, que quand on rentre dans un culte, même si notre visage est un peu pâle et un peu sombre à cause des difficultés et des vicissitudes de notre existence, que quand nous sortons après avoir entendu un message qui est donné ici par les uns et par les autres, les frères, que les chrétiens que nous sommes, nous puissions ressortir avec le visage resplendissant, parce que nous avons été en contact avec le Seigneur. De mille manières, à travers le chant des cantiques, à travers l'adoration, à travers le repas de Sainte-Cène, à travers la parole, à travers la communion fraternelle, qu'il est beau de voir des frères demeurer ensemble, parce que Dieu envoie sa bénédiction pour l'éternité. C'est cela, justement. Alors, quand ils l'ont vu redescendre, ils ont vu qu'il s'était passé quelque chose, et il a amené une partie du ciel sur la terre. Moïse, est-ce qu'aujourd'hui les hommes qui nous regardent, pas seulement ici, parce que très peu rentrent, mais à l'extérieur, peuvent voir en nous la vie, la joie, la lumière, un témoignage chrétien rayonnant. Vous savez, il y a eu un mal considérable qui a été fait par l'Église en général, et nous certainement, nous avons notre part et notre responsabilité de voir quelquefois que les chrétiens, dans leur christianisme vécu au quotidien, ne l'avaient pas rapporté ni la lumière ni la joie, ni le dynamisme, ni le reflet, finalement, de ce qu'est Dieu. C'est terrible. Et moi, je crois qu'il y a un grand rejet, et on n'est pas les seuls à avoir cette responsabilité. Les églises historiques ont fait une triste démonstration de tristesse, de médiocrité, de pauvreté de la foi. Parce que on voit les gens qui sont ratatinés sur eux-mêmes, qui sont là des frustrés, qui manquent de lumière. Vous savez, plus on s'approchera du Seigneur, plus on sera près de lui, plus on connaîtra mieux sa parole, et plus on recevra finalement, eh bien, la dimension, la plénitude de sa vie. Donc, c'était l'histoire de Moïse. C'est de donner envie. Ouais, donner envie. Il y a un autre personnage, il s'appelle Élisée. Et quand Élisée a vu Élie emporté au ciel, c'est toujours une histoire qui monte, hein, vous allez remarquer. Hein. Eh bien, quand Élisée a vu Élie emporté au ciel dans un char de feu, les fils des prophètes, c'est-à-dire tous les jeunes gens qui étaient à l'école d'Élie et d'Élisée, reconnurent à l'instant qu'une double part d'esprit reposait maintenant après le départ d'Élie sur Élisée. Ouais. Vous savez, c'était prophétique cette histoire, parce que quand Jésus est monté au ciel, il a envoyé le Saint-Esprit après. Eh oui. Et je crois que l'Église a une responsabilité, une grande responsabilité, de maintenir la vie de l'Esprit, et chacun d'entre nous, de maintenir la vie de l'Esprit en nous. Hein. Jésus est monté au ciel, mais il nous a envoyé son Esprit. La Pentecôte, elle est toujours réelle. Hein. Alors elle se décline d'une manière ou d'une autre. Hein. Mais moi, je crois encore à la valeur du baptême du Saint-Esprit et à la vie de l'Esprit. Hein. Peut-on discerner en chacun de nous la plénitude de la vie de l'esprit, en force, en puissance et en sagesse? Je prends les trois choses, hein. Les trois choses, en force, puissance et sagesse. Et je termine par Étienne. Étienne, c'est aussi une histoire de regarder vers le haut, hein. Moïse, Élisée, Étienne, lors de son martyre, a vu le ciel et ce qui a eu pour effet de pouvoir prier et pardonner à ceux qui le mettaient à mort. C'est une qualité, c'est un fruit, hein. Mais c'est un fruit qui n'est pas humain, ça, hein. Comme Jésus le dira, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Étienne a vécu exactement la même situation. À cet instant, Étienne ressemble tellement à Christ sur la croix. Quand il a reçu déjà, eh bien, une bordée de pierres, ce qu'on appelle la lapidation, à ce moment-là, il était à genoux, et il a regardé vers le ciel, et il a dit, je vois le ciel ouvert. Tout simplement. L'Esprit de Christ était en lui. L'Esprit de Christ sur nous est celui de la grâce et du pardon. Parce que nous regardons vers le haut, tout simplement. Notre témoignage ici-bas est-il porteur de ce qui est et de ce qui se passe en haut? C'est toute l'histoire du chapitre 6 qui nous est donnée à travers, eh bien, ce que nous avons étudié ce soir. Oui, nous voulons te regarder, Seigneur. Comme les Grecs, un jour dans l'évangile de Luc, de Jean, sont venus voir les disciples, Philippe, en disant, nous voulons voir Jésus. Eh bien, qu'il y ait de plus en plus de gens qui aient envie de voir Jésus. Et qu'il y ait de plus en plus de chrétiens de nos églises qui aient envie de voir Jésus pour venir et se fidéliser dans les réunions. On peut avoir Jésus en photo chez soi, hein. C'est d'idolâtrie. Vous le comprenez naturellement. Alors, sommes-nous capables de répondre positivement? Si l'on nous dit, ou si l'on dit de nous, qu'ont-ils de plus? Est-ce que nous avons des arguments? Est-ce que nous avons des raisons? Est-ce que nous sommes remplis de zèle pour dire ce qu'il y a de plus dans l'Église de Jésus-Christ et en chacun d'entre nous? Alors, tout simplement à nous de le prouver en le vivant au vu et au su de tous. Et je crois que nous pouvons dire « Mon bien-aimé est descendu dans son jardin. » Jésus est descendu. Il est venu, il est au milieu de nous dans son Église. Et il est venu pour y cueillir des lys. C'est une fleur royale, parce que nous faisons partie d'un peuple royal. Nous avons un roi en son royaume, et son royaume, il est dans le ciel, et nous sommes sur terre en train de préparer. Finalement, eh bien, ce royaume, nous sommes ses ambassadeurs. Qu'avez-vous à regarder la tsunamite comme une danse de deux cœurs? Alors, que Dieu nous bénisse ce soir, et que Dieu nous donne de pouvoir prendre toute la mesure de ce que nous avons appelé, intitulé notre méditation, le témoignage de l'amour. C'est l'amour qui va faire la différence. Si nous aimons, rien n'est difficile. Tout devient possible par la force de l'amour que nous saisissons par la foi. On va prier quelques instants, si vous voulez bien. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta bonté, ta fidélité et ta parole. Merci pour ton aide. Merci pour ton aide pour écouter. Et merci pour ton aide pour délivrer cette parole. Et nous te louons et nous te bénissons, Seigneur, parce qu'en effet, si nous pouvons te demander une seule dernière chose ce soir dans notre prière, c'est tout simplement de nous rendre visibles aux yeux du monde, et qu'ainsi, Seigneur, le monde ait envie de voir qui est Christ, de découvrir Jésus-Christ. Et la seule force, la sagesse que tu vas nous donner, cette puissance, Seigneur, qui n'est pas la nôtre, mais qui vient d'en haut, c'est de pouvoir, en effet, Seigneur, communiquer, eh bien, à travers les fruits et les fleurs de ton esprit, oui, les fruits de l'esprit, que véritablement rien ne se fait sans aimer. Alors donne-nous de t'aimer, et nous pourrons aimer le monde, nous pourrons aimer les hommes, nous pourrons t'aimer par-dessus tout, en tout et partout. Merci Jésus. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-sanazaire.fr.